Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Je suis née rue de l'Entrepôt, en plein hiver, dans un logement de deux pièces. Nous étions six là-dedans, j'y suis restée 12 ans. 12 ans à entendre gueuler la concierge dans la cour à cause des terres mortards. Et le mal à l'estomac, bicose la charcuterie. Et la toilette sur l'évier. Et mon père qui a mis 6 ans à claquer dans le KGB du fond sans avoir revu le soleil. C'est être un riviste que de vouloir en sortir.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à Noël Herpe. Noël Herpe, historien du cinéma, critique de cinéma, mais également réalisateur de films. D'ailleurs, on parlera dans la deuxième partie de l'émission du film La Tour de Nesle qui vient de sortir chez Tamasa, qui est un film mis en scène par Noël Herpe. Noël Herpe qui est également l'auteur d'un ouvrage qui vient de paraître chez Marais Éditeur, un ouvrage qui s'appelle Delaire Clouseau, ouvrage qui nous permet de découvrir les échanges épistolaires, en particulier les lettres envoyées par Henri-Georges Clouseau à Suzy Delaire, son actrice, sa muse, sa compagne, qu'il a fait jouer entre autres dans Quai des Orfèvres. L'équipe de Culture Prohibée remercie d'ailleurs Amélie Rérol et Pierre-Julien Mareste pour leur aide sur cette émission. Nous allons donc nous entretenir avec Noël Herpe autour à la fois de cet ouvrage, Delaire Clouseau, paru chez Marais Éditeur, et de ce film, La Tour de Nesle, sorti chez Tamasa. Donc tout de suite, nous retrouvons Noël Herpe au micro de Culture Prohibée. Bonjour Noël Herpe.
Bonjour.
Alors vous êtes aujourd'hui dans notre émission Culture Prohibée pour aborder deux choses qui font l'actualité. Il y a d'abord votre ouvrage Delaire Clouseau qui est paru chez Marest Éditeur, et puis il y a le film La Tour de Nesle qui est paru chez Tamasa, dont on parlera dans la deuxième partie de l'émission, parce que vous êtes à la fois auteur, écrivain, historien du cinéma, réalisateur, vous avez plusieurs casquettes, comme l'on dit, et vous avez choisi là donc de consacrer un ouvrage à la correspondance entre le cinéaste Henri-Georges Clouseau et Suzy Delaire, qui est connue des cinéphiles pour avoir tourné entre autres chez Clouseau, bien évidemment, et on se rappelle d'elle tout particulièrement dans Quai des Orfèvres, même si on en parlera dans l'entretien, elle a eu plusieurs vies quelque part, Suzy Delaire. Et tout d'abord, moi je voulais savoir, vous qui avez été commissaire de l'exposition Henri-Georges Clouseau à la Cinémathèque française. Quel lien entretenez-vous avec le cinéma d'Henri-Georges Clouseau, qui est un cinéaste que moi je considère personnellement dans mon panthéon comme l'un des meilleurs cinéastes, l'un des plus grands de l'histoire du cinéma et qui est souvent mésestimé d'ailleurs.
Écoutez, oui, j'ai beaucoup d'admiration pour Clouseau. Je ferai peut-être pas forcément de classement, mais enfin, oui, c'est un des grands cinéastes français, c'est certain. Moi, mon rapport avec Clouseau, il est au long cours, puisque, par exemple, je suis assez âgé aujourd'hui, bien que n'étant pas encore un vieillard chenu, pour me souvenir de sa mort, en 1977, le même jour d'ailleurs qu'Henri Langlois. C'était un moment, hein, c'était un moment national à cette époque-là, la mort d'un cinéaste, la mort d'un acteur. On interrompait les programmes pour passer un film de Roger Clouseau parce que c'était une icône nationale. Donc ça m'impressionnait beaucoup quand j'étais gamin, le fait que le cinéma soit aussi un lieu autour duquel se retrouvent les gens, autour de souvenirs communs et autour de films importants comme Le Corbeau, Quai des Orfèvres, L'Assassin Beethoven 21, qui sont évidemment qui sont restés d'ailleurs des films mythiques. Ce qui est très frappant dans le cas de Clouseau, c'est qu'il aurait pu s'éloigner, comme se sont éloignés certains cinéastes de sa génération, et on s'aperçoit que plus ça va, plus il reste dans les mémoires, et que il a conquis un nouveau public à partir notamment du film de Serge Bromberg, L'Enfer d'Henri Georges Clouseau, qui a montré que Clouseau, c'était pas seulement le grand cinéaste classique de thriller à l'américaine, avec un côté efficace, une vision du monde puissante, etc., un grand directeur d'acteurs, mais que c'était aussi un expérimentateur avec un rapport aux arts plastiques et à la modernité picturale tout à fait originale. Et je pense que ça a été vraiment une très bonne chose pour Clouseau, parce que ça l'a déringardisé aux yeux de gens qui pouvaient à tort le considérer comme ringard. Ça l'a rendu sexy pour les jeunes cinéphiles, et aussi ça l'a rendu sexy dans le domaine de l'art contemporain, parce que j'ai rencontré souvent, notamment quand j'ai préparé cette expo pour la Cinémathèque française, des artistes, des peintres, des plasticiens qui étaient passionnés pour le cinéma de Clouseau, et en dehors même des limites du cinéma. C'était donc assez logique et légitime d'en arriver à exposer Clouseau. Ce que nous avons fait donc en 2017 à la Cinémathèque, grâce à un fonds d'archives qui avait été légué par le Secours catholique, héritier d'Inès Clouseau, sa veuve, qui permettait d'explorer un peu les étapes préparatoires de ses films, les storyboards extraordinaires de l'enfer, mais aussi des films antérieurs. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans l'exposition, c'est que le Clouseau expérimental épris de recherche plastique. Il est là à la fin, évidemment, avec Mister Picasso, puis avec L'Enfer et bien sûr son dernier film, La Prisonnière. Mais il est déjà là avant, en fait. C'est déjà quelqu'un qui s'interroge sur les pouvoirs de l'image, sur les limites de la création qu'il essaie de repousser autant que possible. Il y a déjà, dans un film comme Quai des Orfèvres, par exemple, dont vous parliez, un côté expérimental dans la composition de l'image, pas simplement le jeu sur le noir et blanc, mais des effets de passage, de frontières, de hors-champ, qui sont très intéressants. J'ai fait pas mal de captures d'écran à cette occasion pour montrer des motifs plastiques obsédants dans le cinéma, dès le cinéma classique de Clouseau, et presque, je dirais, une tension vers l'abstraction à l'intérieur même d'une figuration réaliste. Donc c'est le grand paradoxe de ce cinéaste, certes classique et reconnu comme un des plus grands cinéastes classiques français, mais qui tend vers un dépassement du classicisme. C'est ça aussi qui m'a intéressé de montrer dans cette exposition.
Ce livre, hein, c'est un prologue, vous avez déjà écrit hein, sur et autour de Clouseau, mais ce livre-là, il est particulier. Alors déjà, c'est le livre aussi, c'est la rencontre aussi avec un éditeur, parce que Pierre-Julien Marais, c'est quand même un éditeur qui, depuis quelques années, que je remercie au passage d'ailleurs, parce qu'il s'il ne m'avait pas gentiment fait parvenir votre ouvrage, on ne serait sans doute pas là en train de parler, puis je n'aurais pas découvert votre film, ce qui aurait été une énorme bêtise. Donc là, je suis très content d'avoir découvert votre travail à travers le travail de Pierre-Julien Marais. C'est une rencontre avec cet éditeur aussi qui a permis ce livre. Je pense, ce livre, c'est vraiment une histoire de rencontre. Il y a Pierre-Julien Marais, il y a Jacqueline Villemette. C'est une histoire de rencontre.
Tout à fait. Il y a aussi Guylaine Gracieux, qui est l'ayant droit d'Henri Georges Clouseau, enfin qui s'occupe un peu de gérer son catalogue et qui a mis la main à la pâte dans cette affaire, parce que c'est par elle que j'ai connu Jacqueline Villemette et que nous avons pu effectivement nous mettre d'accord sur l'idée d'éditer la correspondance inédite de Clouseau. Donc il y a cette première rencontre, Guylaine, Jacqueline, et puis Pierre-Julien, que je connaissais par ailleurs, qui est un éditeur formidable, extrêmement dynamique, toujours prêt à s'engager pour des livres pas toujours faciles à faire, qui s'est décidé sur ce projet en un quart de tour. On a rencontré Jacqueline Villemette ensemble en septembre, si je me souviens bien, et voilà, le livre sort en avril. C'est rare hein, que ce soit aussi rapide. Il a quelque chose de très artisanal et et en même temps de très, très scrupuleux dans la composition de ses livres. Et puis, il ose des sujets qui sont peut-être pas dans l'air du temps, ou qui sont peut-être pas dans une certaine doxa, notamment celle des cahiers du cinéma, qui ont tendance à continuer à répéter un certain dogme sur les cinéastes qu'il faut défendre et ceux qu'on n'a pas le droit de défendre. Et finalement, vous l'aurez compris, Clouzot fait partie des cinéastes que, selon les cahiers du cinéma, on n'a pas le droit de défendre, qui ne seraient pas des auteurs. Certains critiques que je ne nommerai pas j'ai même entendu des déclarations de leur part disant on ne peut pas aimer le salaire de la peur et le cinéma. Bon, ok. Moi, je n'ai jamais été intimidé par ces anathèmes. Je n'ai jamais considéré qu'on ne pouvait pas aimer à la fois Renoir et Carnet ou Bresson et Clouzot. C'est des cinéastes qui œuvraient à la même époque, qui avaient chacun leur vision, qui avaient chacun leur projet. Et Dieu reconnaîtra les siens. En l'occurrence, Pierre-Vivien Liamarès, il a cette liberté aussi de ne pas être enfermé dans une politique des auteurs poussiéreuse et d'essayer de renouveler la lecture qu'on peut avoir de l'histoire du cinéma français, pas seulement d'ailleurs, il a publié récemment par exemple de magnifiques mémoires de Richard Fleischer, qui est un auteur qui n'était pas tellement aimé par la cinéphilie française, et c'est un texte passionnant. Il y a les livres de Chomorat qui sont très drôles, il y a les mémoires de Jacquemont, il y aura bientôt un dictionnaire de la musique au cinéma par Thierry Jousse, donc c'est vraiment un très beau catalogue, mais c'est un grand plaisir de travailler avec lui, je dois le dire, d'autant plus que nous sommes voisins à Paris, donc c'est très commode.
C'est pratique, effectivement. Alors, on peut aussi peut-être rappeler, peut-être pour nos auditeurs, qui est Jacqueline Villemette, parce que je pense que c'est vraiment par elle qu'arrive la correspondance de Clouzot.
Ben Jacqueline Villemette, c'est la petite fille d'Albert Villemette, qui était un grand homme de théâtre et musical de l'entre-deux-guerres, grand ami de Sacha Guitry. Elle-même connaît très bien l'œuvre de son grand-père, à laquelle elle a consacré plusieurs publications. Et il se trouve que 15 ans avant la mort de Suzy, elle l'a rencontrée lors d'un hommage à Albert Villemette, justement au Théâtre des Bouffes parisiens, et elles se sont plus quittées, elles sont devenues très copines, et il y a une histoire d'amitié, car je crois que Suzy Dollaire était une femme d'amitié, qui pouvait être tempétueuse, volcanique, mais aussi très, très fidèle quand elle aimait les gens. Et Jacqueline Villemette a entrepris, après la mort de Suzy, qui est morte à 102 ans, il y a 2 ans, d'une part de faire un livre qu'elle vient de publier chez L'Harmattan, qui est une sorte de retranscription des entretiens qu'elle a pu avoir avec Suzy Dollaire, et où Suzy Dollaire racontait sa carrière, notamment sa carrière de musical, car elle a une carrière très importante de musical avant et après-guerre, et aussi d'opérette, et puis sa rencontre avec Clouzot, sa rencontre, ses relations difficiles avec Jean Grémillon, son travail avec Visconti ou avec René Clément, car elle a quand même un très beau pédigré cinématographique, Suzy Dollaire. Elle n'a pas énormément tourné, mais elle a tourné avec quand même quelques très grands cinéastes, et avec de très grands acteurs, puisqu'elle a été la partenaire de Noël, de Bourville, de Laurel et Hardy, de Louis de Funès, de Louis Jouvet, excusez du peu. Donc c'est une actrice qui savait choisir ses amis, mais qui savait aussi choisir ses partenaires et ses metteurs en scène. À partir de ça, Jacqueline a fait un livre qui est sorti en même temps que notre livre chez Marest. Et puis elle nous a proposé donc de cette correspondance qui n'est pas énorme, c'est une quarantaine de lettres. Il est probable que des lettres ont été perdues ou égarées, mais enfin bon, ça fait un bel ensemble. Et à partir de là, j'ai fait une préface où j'ai essayé d'imaginer ce que les lettres ne disent pas. Et de lire entre les lignes, de voir quels étaient les orages, les troubles, les abîmes de cette relation pas facile. Et aussi, évidemment, l'arrière-plan politique, le fait que ça ne se passe pas à n'importe quel moment. C'est la fin des années 30, le début de l'occupation, la continentale, un moment où ils sont un peu obligés de gagner leur croûte et de faire des compromis, de travailler avec cette société allemande installée à Paris, parce que ils sont très ambitieux tous les deux et l'argent n'a pas d'odeur. Ils vont y trouver le succès, ils vont y trouver la gloire, en lui laissant quelques plumes, et surtout, c'est le cas de le dire, s'agissant de Clouzot, puisque l'objet de cette expérience, c'est malheureuse de la libération, c'est le corbeau, le corbeau qui va lui valoir quelques petits ennuis, quelques petits tracas avec les commissions d'épuration.
D'ailleurs,
mais à vrai dire, les tracas avec la commission d'épuration sont surtout dus au fait qu'il a travaillé avec la Continentale, qu'il a été très exposé, très soutenu par Alfred Greven, qui, je pense, avait confiance en son talent. Il a fait dans ce cadre Le Corbeau, qui était un film nullement collaborationniste, mais il a payé évidemment le prix de cette exposition médiatique, comme on dirait aujourd'hui, qui a été la sienne dans ces années-là, et le fait qu'il dirigeait le département des scénarios à la Continentale, donc il a été pendant 2 ou 3 ans un homme de pouvoir dans le cadre d'une institution voulue par les Allemands. Le problème du suicide de l'air n'a certainement pas arrangé les choses. Elle a été certainement moins lourdement punie que lui, mais elle avait été encore plus imprudente puisqu'elle avait participé à un trop fameux voyage en Allemagne commandité par la Continentale et qui emmenait des acteurs et actrices français dans les studios berlinois pour y rencontrer les instances locales. Bon, voilà. Donc je ne porte pas de jugement moral sur tout ça, mais j'essaie de reconstituer un peu ce climat. Et aussi, je dirais à la fois le... Comment dire, à quel point ça a pu quand même jouer sur leur relation, sur le côté toujours tendu, orageux, difficile de leur relation, parce que ça ne se passe pas à n'importe quel moment, et forcément que leur histoire d'amour emporte les traces. Et en même temps, le plus intéressant, c'est ce qu'ils en ont fait cinématographiquement, c'est-à-dire qu'ils se servent du personnage de Suzy pour imposer un nouveau style d'actrice sous l'occupation à un moment où les actrices d'avant-guerre, par exemple Michel Morgan, est partie aux États-Unis, on essaie de trouver on ne peut pas voir de film américain, donc on cherche un style d'actrice un peu nouveau, et Suzy Delaire va contribuer à un certain renouveau du jeu, d'actrice dans cette période des années 40. Et ensuite, avec plus tard, Clouseau donc revient dans les studios avec un nouveau film et un dernier rôle pour Suzy qui va lui permettre de mettre en scène leur relation de manière un peu métaphorique. J'avance l'hypothèse que la relation à la fois de jalousie obsessionnelle de Bernard Blier avec Suzy Delaire dans Quai des Orfèvres s'inspire de leur propre relation dans l'intimité. Un certain nombre de phrases, de répliques du dialogue sont des choses que pouvait dire Suzy dans la vie. Et je dirais même que tout ce thème du cinéma comme le lieu où, de l'ambition et en même temps de la compromission, c'est un thème qui est présent dans Quai des Orfèvres avec le personnage de Brignon, joué par Charles Dullin, avec lequel Bernard Blier soupçonne sa femme Suzy Delaire, qui est une petite comédienne ambitieuse, de coucher pour avoir un rôle au cinéma. Donc voilà, je vois dans tout ça. Alors, ensuite, je ne vais pas vous pitcher le film ni vous le spoiler, mais il est certain que à travers cette histoire, je pense que Clouseau dit beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire de tout ce qu'il avait pu vivre dans les années noires.
Danse avec moi. Brisons-nous tous les deux et de l'instant merveilleux fermons les yeux. Danse avec moi, profitons de l'accord qui fait vibrer nos corps. Dansons
Vous écoutez Noël Herp, auteur de Delaire Clouseau, ouvrage paru chez Marais Éditeur, au micro de Culture Prohibée. Clouseau, oui, qui a été, vous le rappeliez, hein, qui a la particularité quand même d'avoir été honni par tous les bords politiques, parce qu'il a quand même, Le Corbeau, c'est vraiment le film qui a fait qu'il a été viré de la Continentale, et de l'autre côté, à la Libération, comme vous le rappeliez, il a été interdit de travailler quand même. Bon, ça n'a pas duré longtemps, heureusement, mais c'est quand même une drôle de destinée que lui a apporté ce film, Le Corbeau.
Oui, ça l'a marqué à vie, certainement. Je pense qu'en même temps, Clouseau, je crois qu'il... Clouseau, c'était à la fois quelqu'un de tyrannique, un très grand directeur d'acteurs, quelqu'un qui terrorisait tout le monde sur le plateau. Truffaut a écrit un article célèbre sur le tournage des Espions, beaucoup plus tard. Clouseau au travail ou le règne de la terreur, je crois que c'était un peu ça. Quand on voit par exemple les photos de tournage de Quai des Orfèvres, dont je publie quelques échantillons dans le livre, on a vraiment l'impression que Suzy Delaire, elle n'est pas du tout rassurée quand elle voit s'approcher son metteur en scène et compagnon. Mais à côté de ça, il y a quelque chose de masochiste aussi chez lui. C'est quelqu'un qui retourne contre lui-même sa propre volonté de puissance, qui, je dirais, pour parler vulgairement, qui cherche un peu la merde, qui cherche des sujets difficiles. Et il est certain que faire un film comme Le Corbeau en 1943, qui était un film sur les lettres anonymes, c'était quand même extrêmement pervers. Ça lui a valu de se fâcher avec Alfred Greven, directeur de la Continentale, qui n'est pas du tout content du tour que prenait le film. Et ça lui a valu, évidemment, d'être très mal vu par les porte-parole de la France résistante, qui ne voulait pas voir, finalement, qui ne voulait pas admettre la noirceur du tableau de la France occupée que dressait Clouzot dans ce film. Même si, évidemment, le film ne représente pas officiellement la France occupée, c'est quand même un certain climat de la France occupée qui est montré d'une manière très crue. Donc, il s'est mis à dos tout le monde et de tous les bords.
Et ça contraste d'ailleurs avec les lettres qu'on retrouve dans le livre, où il parle très très peu du contexte politique, voire quasiment pas. Il semble détaché, vous l'avez rappelé, il semble plus préoccupé par le fait de travailler, en fait. Il semble s'extraire de ce contexte politique. Pourtant, Le Corbeau, Quai des Orfèvres, et même Manon, qui est un film que je trouve sous-estimé, qui est un film assez dingue, sont quand même des films où tout ça transparaît et mis devant les yeux des spectateurs avec quand même beaucoup de force.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en effet, dans les lettres, il n'en est que question de tout ça. Je pense que Suisse de l'air n'était certainement pas très préoccupé par les questions politiques. Et Clouzot, dans les lettres qu'il lui adresse, ne fait allusion qu'à des choses très concrètes, les tickets de rationnement, les questions de passer d'une zone à l'autre ou d'aller à Paris au moment où c'est peut-être un peu dangereux, etc., y compris ensuite pendant la période de l'épuration. Mais je crois que c'est un peu le cas de tous les Français de l'époque, qui se soucient surtout d'avoir des tickets d'alimentation, de pouvoir passer la ligne de démarcation, de ceci, cela. C'était des choses très concrètes et en ça, ils sont assez représentatifs du français moyen de cette époque. Sauf qu'en effet, dans son cinéma, dans Le Corbeau déjà et plus tard dans Quai des Orfèvres et surtout dans Manon, qui est en effet une sorte de vaste fresque du Paris occupé et surtout du Paris, c'est surtout du Paris libéré d'ailleurs, parce que le film commence en 1944. C'est vrai que c'est cette extraordinaire audace politique de Clouzot, qui est un metteur en scène de son temps, qui met les pieds dans le plat et qui appuie là où ça fait mal, ça n'apparaît pas tellement dans les lettres. Oui, par exemple, il y a un moment où il écrit à Suzy « Ah, je suis en train de tourner mon film à Montfort-l'Amaury », il s'agit bien sûr du Corbeau, ça s'appelait à ce moment-là « Lettres anonymes », c'est très difficile, j'ai pas assez de temps de travail, etc. Mais jamais il ne semble inquiet, par exemple, du contenu sulfureux de son film. On a l'impression que c'est pas le problème, quoi. C'est des problèmes purement matériels. Mais vous savez, c'est assez caractéristique de cette époque et aussi d'une certaine manière de concevoir le cinéma à cette époque. Les cinéastes de cette génération-là n'étaient pas des gens prétentieux et qui se pavanaient dans le discours. Ils se souciaient surtout de faire. Et même s'il faisait des films très ambitieux. Mais ça, on s'en apercevait à la fin, une fois que le film était projeté sur l'écran.
On découvre en tout cas en quoi, cette relation avec Suzy Delair, elle compte beaucoup, elle compte peut-être plus que tout, parce que c'est peut-être, contrairement par exemple à Vera Clouzot, une femme qui, on sent qu'il veut être un peu son mentor. Elle est sa muse, vous l'avez rappelé, elle lui inspire des répliques, elle lui inspire tellement de choses d'ailleurs, même parfois il y a une lettre très courte dans le livre où elle lui inspire même quelques grivoiseries, voilà. On sent qu'il y a une relation entre eux qui transparaît dans ses lettres, qui est une... Alors lui, il est fou amoureux, j'ai l'impression qu'elle est moins amoureuse, elle est moins amoureuse, pardon, que lui est amoureux de Suzy Delair, à travers ces lettres, on découvre beaucoup de frustration, beaucoup de jalousie, et en fait, beaucoup de thèmes de son cinéma qu'on va retrouver aussi bien dans Manon que dans L'Enfer aussi, enfin, des choses qui reviendront dans son cinéma.
Oui, tout à fait. Il y a surtout ce thème que j'indiquais tout à l'heure, de la jalousie, et de la jalousie qui va surgir dans Quai des Orfèvres et se développer, en effet, beaucoup plus tard, de manière obsessionnelle, dans L'Enfer, se développer de manière tellement obsessionnel, d'ailleurs, qu'il n'arrivera même pas à terminer le film. Bon, c'est une sorte de concentré absolument délirant de ses obsessions. Clouzot est un jaloux, c'est un grand lecteur de Proust, hein, je pense qu'il a, il a vraiment adoré la description de la jalousie dans La recherche du temps perdu. D'ailleurs, c'est une des premières choses qu'il dit à Suzy quand il la rencontre, il lui conseille de lire Proust. Il a vraiment ce rapport à l'amour qui est fait de souffrance, qui est fait de fatalité, de tragédie, de fièvre, de frustration. Je pense qu'il a, il a besoin de fonctionner comme ça, en fait. Il a besoin d'être jaloux et de susciter la jalousie aussi. Car c'est à, encore une fois, c'est à double tranchant. Il souffre des infidélités de Suzy, comme il souffrira des infidélités de certaines de ses autres compagnes, mais il est surtout quelqu'un, mais il est aussi en même temps quelqu'un qui trompe, et il a trompé Suzy comme il a trompé Vera et peut-être même aussi Inès. Il y a toujours un jeu de chat et de la souris, un jeu de je t'aime moi non plus, qui pour moi fait vraiment le fondement de la relation amoureuse selon Clouzot, une sorte de recherche de l'instabilité permanente. Faut qu'il y ait des coups de théâtre tout le temps, faut qu'il y ait des retournements de situation, faut que ça cogne, il faut que ça se déchire, je pense que c'est quelqu'un qui ne supporte pas les situations stables, et je pense aussi que c'est ce qu'il a entraîné vers Suzy. Hein. Son frère Marcel, que j'ai un peu connu à la fin de sa vie, me disait finalement ce qu'il aimait chez Suzy, c'était l'imprévu. C'était quelqu'un qui le surprenait en permanence. Et je ne sais pas s'il a retrouvé ça par la suite avec Vera ou Inès. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais avec Suzy, il avait la chance ou la malchance, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, en fonction de son tempérament, il faut croire que ça lui convenait d'avoir quelqu'un qui était soupolé, imprévisible, fantasque, faisant volontiers des scènes. Lorsque Marcel Clouzot donc déjeunait chez eux rue Lagrange, à côté de la place Maubert, dans leur appartement qui donnait sur l'île de la Cité, il déjeunait seul, en fait, parce que Henri-Georges et Suzy ne cessaient de tourner autour de la table en se poursuivant et en s'envoyant des noms d'oiseaux. Donc c'est le mouvement perpétuel, oui. Et ça ne, et, alors on ne serait pas là pour en parler, évidemment, si ça n'avait nourri son inspiration de cinéaste. C'est-à-dire cette espèce d'angoisse permanente que vivent les personnages de Clouzot, de savoir si l'autre ne leur ment pas, si la relation n'est pas à l'heure, si derrière l'utopie amoureuse, il n'y a pas faux semblant. Alors, fait qu'il y ait des orfèvres, ce sera l'enfer, mais au milieu, il y a évidemment Manon. Hein, Manon qui est peut-être le film le plus représentatif de ça, en fait. Hein, la relation qu'il développe dans le film entre Desgrieux et Manon est une relation inspirée par sa relation avec Suzy. D'ailleurs, Suzy a dit dans une de ses dernières interviews qu'elle avait été pressentie pour jouer le rôle de Manon. J'y crois pas trop parce qu'elle a quand même tout à fait l'âge du rôle. Mais il est certain que Manon est peut-être encore plus autobiographique de ce point de vue-là que qu'elle est d'orfèvre.
C'est un film que j'aime beaucoup, Manon. C'est un film assez peu connu dans sa filmographie, mais qui, je trouve, est assez... assez impressionnant. Il y a une lettre qui synthétise un peu tout ce que vous venez de dire, hein, et ce sur quoi on échange depuis le début de l'entretien. C'est cette lettre qui est en page 50 de l'ouvrage, où il y a tout là-dedans, je trouve. Il y a tout dans cet échange. Il y a le cinéma, il y a la jalousie, il y a l'amour complexe, on sent aussi que c'est s'amuse, on sent que lui, il l'aime plus qu'elle ne l'aime, et tout ça. Enfin, c'est assez... C'est assez impressionnant, cette lettre, je trouve.
C'est une lettre où il lui reproche de se laisser draguer, de se laisser courtiser par les hommes, c'est ça ?
Oui, c'est la lettre qui commence par dimanche, 9h du soir.
Je ne les connais pas toutes par cœur, mais enfin, je me souviens d'une lettre notamment qui est très Clé des Orfèvres, où il lui dit, j'ai peur que tous ces hommes qui te font la cour ne s'intéressent plus à la femme qu'à l'artiste. Méfie-toi, il faut que tu fasses attention à tous ces hommes qui te courent après, j'ai peur. Hein, il y a cette phrase. Je ne t'ai jamais autant aimé ni désiré, mais j'ai peur. Je trouve ça vraiment magnifique, parce que c'est tout Clouzot, finalement. C'est le mélange du désir sexuel très fort. Clouzot, c'est aussi quelqu'un qui parle de sexe, et effectivement, il y a des lettres quasiment porno, mais qui met en scène le sexe dans ses films. Et en même temps, le sexe et Eros est toujours pas loin de Thanatos, et le désir est toujours lié à la peur. Et c'est très, très fascinant chez lui, parce que c'est quelqu'un qui tutoie la folie, en fait, hein, qui est qui est vraiment très borderline, Clouseau, et il joue avec sa propre folie, il met en scène sa folie. Ça, il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui en sont capables.
J'ai débuté l'entretien en disant que ce livre était une histoire de rencontre aussi, et vous avez rencontré Suzy Dolaire, vous en parlez dans les premières pages du livre.
Tout à fait, oui, c'est une rencontre furtive, mais intense, puisque préparant l'expo pour la Cinémathèque et me lassant qu'à chaque fois que je l'appelais, elle me raccrocha au nez, j'ai pris mon courage à deux mains, ça devait être un lundi de Pentecôte, et puis voilà, je me suis rendu chez elle, et contre toute attente, elle nous a reçus dans sa cuisine, nullement surprise de me voir arriver là à l'improviste. Elle nous a senti le tralala, elle nous a chanté, c'est la fameuse chanson de Quai des Orfèvres, elle nous a même chanté la chanson qu'elle chantait en 1937 à l'ABC, la première fois où Clouseau était venu l'entendre, à l'époque où elle n'était qu'une petite girl de revue, et elle nous a quittés en nous disant cette phrase qui résume tout, ah Henri Georges, quelle connerie j'ai faite de le quitter, il ne se passe pas un jour sans que je pense à lui. Donc c'était très, très touchant. À 100 ans, elle avait gardé une capacité d'accueillir des inconnus qui tout d'un coup, les inconnus dans la maison, qui tout d'un coup allaient lui parler de cet homme qu'elle avait aimé 50 ans plus tôt et rafraîchir des souvenirs qu'elle était toute prête à réveiller en fait. Et c'était vivant, c'était pas du tout, c'était un moment vivant, très assez joyeux en fait.
Qui cadre d'ailleurs avec le personnage hein, en fait, hein, ça ne m'étonne pas. ce qui est étonnant, c'est qu'elle vous a reçu, elle a déjà un grand âge et qu'elle était toujours vaillante visiblement. Donc,
Oui, elle est restée une heure dans sa cuisine debout à nous parler. Mais ouais, voilà, alors maintenant je veux pas... Je veux pas non plus être dans la géographie. Je pense qu'elle avait ses petits défauts comme tout le monde et que c'était pas toujours commode de travailler avec elle. Mais je pense que c'était quelqu'un qui avait une formidable énergie, une joie de vivre, une vitalité et une drôlerie. Hein, une drôlerie. On le voit d'ailleurs parce que toutes les choses qu'elle a tournées, même pour la télévision dans les années 80, j'ai revu des choses qu'elle a tournées comme L'âge vermeil ou Le mythomane où elle était très amusante. Hein.
Là-haut, là-haut, quand il fut sur le trône, il se mit à chanter, il se mit à chanter.
Alors,
j'emmerde les gendarmes, là-haut, là-haut, j'emmerde les gendarmes. Et la marée chaussée, et la marée chaussée.
Vous écoutez Noël R au micro de Culture Prohibée. On va aller dans la continuité de Clouseau, parce qu'il y a un film de Clouseau qui s'appelle Miquette et sa mère, et vous avez, qui je pense, est un film de Clouseau qui doit beaucoup compter pour vous, surtout quand on voit La Tour de Nesle. Moi, j'y vois un lien de parenté, est-ce que je me trompe?
Ah ben, vous avez tout à fait raison, là, vous avez mis le doigt dessus, c'est mon Rosebud. Ben, je pense d'abord que c'était le Rosebud de Clouseau. Hein. J'ai fait d'ailleurs une préface à une réédition de la pièce de Robert de Flers, Les garçons de Caliavé, qui a été adaptée plusieurs fois au cinéma, qui avait été adaptée en muet, puis par Henri Diamant-Berger, par Jean Boyer, et puis donc par Clouseau. Et en fait, Clouseau a fait comme si c'était une commande, un petit film qu'il avait fait comme ça par-dessus la dent, pas du tout. C'est un film auquel il a beaucoup cru, qu'il a longuement préparé, et donc je me suis aperçu que c'était une pièce qu'il avait vue quand il était enfant, qui est peut-être la première pièce qu'il ait vue quand il était enfant. en tournée, sans doute en Bretagne ou à Niort, mais je pense plus vraisemblablement en Bretagne où ses parents avaient déménagé. Donc il y a vraiment un rapport au théâtre 1900. Il demandait d'ailleurs à Louis Jouvet dans le film de charger son rôle de Montchablon, son rôle de vieil acteur cabot, comme le faisait Max Derly à la création, en tout cas dans cette tournée qu'il avait vue. Je pense qu'il y a chez Clouzot ce goût du vieux théâtre, des conventions du théâtre, des trois coups, des coulisses, du décor en toile peinte. Il y a ça déjà dans Quai des Orfèvres, hein, parce qu'il a très bien connu ce monde du musical d'avant-guerre, les petites girls, les impresarios, les producteurs véreux, etc. Et il le met en scène de manière à la fois tendre et très ironique. Et ça culmine pour moi dans Miquette et sa mère, avec notamment une scène finale qui dure à peu près une demi-heure de théâtre de verdure, qui n'est pas du tout dans la pièce de Fleurs et Caliavet, et qui est un chef-d'œuvre de drôlerie, pour moi, inégalé. Il s'est beaucoup amusé, je crois, à écrire ça avec Jean Ferry, qui était un pataphysicien facétieux, avec qui il avait déjà écrit le scénario de l'Orfèvre. Et c'est pas dans la pièce, hein, tout ça. C'est cette représentation de théâtre complètement foireuse, où rien ne marche comme on voudrait, où les acteurs arrivent en retard, où on voit les trucages, les bruitages en coulisses, la manière dont on fait des bruits d'orage, et tout ça. C'est un moment de cinéma pour moi absolument merveilleux. C'est-à-dire, c'est comment le cinéma peut affirmer sa propre fantaisie, sa propre poésie, en filmant les conventions du théâtre. D'un théâtre qui n'existe plus, mais qui a peut-être besoin de ne plus exister pour être ranimé par le cinéma. Il y a là un écart qui est très, très intéressant, qui correspond à peu près à ce que fait à la même époque qu'Autant Lara avec Occupe-toi d'Amélie. Et qui, Occupe-toi d'Amélie est un film qui est plus connu et qui a été plus célébré à l'époque par la critique, notamment par André Bazin. Mais je suis vraiment étonné que Miquette et sa mère ne soit pas plus connu, parce que c'est pour moi un des meilleurs films de Clouzot et un des meilleurs films de théâtre tout court.
Le roi !
Ah, salut, mes seigneurs !
Quel est ce nouveau venu ? C'est sans doute quelque Italien qui cherche fortune. Il me semble que j'ai entendu cette voix.
C'est un souvenir de jeunesse que je veux te raconter.
Je me rappelle. Te donne cette puissance de deviner.
La tour de Nesle !
La tour de Nesle !
Oui, oui, la vieille tour de Nesle, au-dessous de laquelle on retrouve tant de cadavres.
Tant que cet homme vivra, je ne serai pas reine. Mais lui est mort.
À nous deux, nous serons le véritable roi.
Durée de moins si cette fois tu m'échappes.
Bien joué, Marguerite. À toi la première partie. À moi la revanche.
C'est moi maintenant qui tiens ta vie entre mes mains.
Cette démarche, vous l'appliquez là quand vous faites. Quand vous filmez. Vous filmez du théâtre, mais c'est d'une manière très particulière, on va y revenir, et vous choisissez la tour de Nesle. Cette pièce d'Alexandre Dumas, bon, que vous raccourcissez évidemment, parce qu'elle c'est beaucoup plus long, pourquoi déjà avoir choisi la tour de Nesle déjà pourquoi ce choix déjà?
Ah bah, je dirais que c'est plutôt la tour de Nesle qui m'a choisi, mais c'est drôle parce que j'ai eu une sorte de vision, cette nuit-là, dans mes insomnies, et je me suis dit, c'est la mère de la fiction. Quand je dis la mère de la fiction, je veux dire que c'est... on pourrait presque dire que toutes les fictions qu'on voit aujourd'hui sont sorties d'Alexandre Dumas. C'est quand même le père du roman tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et si cette fiction avait une mère, ce serait la Tour de Nesle, parce que peut-être parce que c'est une pièce de théâtre avec évidemment une polarité qui n'est pas tout à fait la même, et surtout une polarité sur le personnage féminin, sur le personnage de la mère précisément, de la mère à la fois castratrice, monstrueuse et fascinante. Donc j'y vois, oui, une sorte d'origine de la fiction, à la fois de la fiction théâtrale, de la fiction romanesque, telle que va la développer beaucoup plus tard Dumas avec Les Trois Mousquetaires, mais il est d'abord un dramaturge, et de la fiction cinématographique, puisqu'il y a déjà plein d'essais de cinéma dans cette pièce. Il y a le hors-champ, il y a l'ellipse, il y a le feuilleton, il y a il y a de gros plans. En fait, Dumas est un scénariste qui s'ignore et qui invente sans le savoir des effets de cinéma qui vont se développer 60 ou 70 ans plus tard. C'est cet effet de naissance du cinéma à travers le théâtre qui m'intéressait. C'est comme si j'avais un peu envie de recommencer l'histoire du cinéma de zéro et en réaffirmant le lien originel avec le théâtre. Oui. Et bon, c'est pas que je m'intéresse pas à la modernité cinématographique, mais je trouve qu'il y a aussi une modernité à rechercher. En tout cas, il y a une modernité à rechercher dans l'éternelle répétition, ressassement de la nouvelle vague que nous inflige à 80% le cinéma français depuis une trentaine d'années. Ça, j'en ai vraiment ras-le-bol. Donc, j'essaie de trouver ma liberté autrement et en remontant vers d'autres modèles.
Alors, pour préparer cette émission, j'ai revu la version d'Abel Gance. Il se trouve que voilà, j'avais la version d'Abel Gance sous la main. J'ai dit, bon, je vais la revoir. Je vais regarder les deux. Et je trouve qu'en fait, à la différence de la vôtre, elle assume beaucoup moins le texte. Et la vôtre, elle assume le texte de manière plus forte parce qu'on sent qu'il y a une volonté d'assumer le texte et de rejoindre en quelque part l'écriture de Dumas parce que cette écriture, comme vous l'avez dit, elle a quelque chose de cinématographique. D'ailleurs, Dumas, c'est l'irruption du hors-champ au théâtre, vous l'avez rappelé, et chez vous, il y a le hors-champ aussi qui compte beaucoup dans la manière dont vous filmez la Tour de Nesle.
Oui, tout à fait. Bah, je dirais que ça, c'est mon côté basinien, justement. Moi, Abel Gance, fait partie d'une époque de l'histoire du cinéma où on voulait plutôt, quand on adaptait une pièce de théâtre, on voulait en faire un objet de cinéma. Donc, on découpait beaucoup, on aérait, on créait des scènes qui n'étaient pas dans la pièce. Il y a notamment dans la Tour de Nesle de Gance plein de scènes comiques avec Gabriello et Révis, que moi, je trouve pas drôle du tout, mais qui sont censées donner du hors-champ. Il y a Michel Bouquet, d'ailleurs, qui joue le rôle de Louis X le Hutin qui joue à la paume, tout ça c'est pas du tout dans la pièce. Il y a même une happy end pour permettre à Pierre Brasseur de caracoler loin de la Tour de Nesle et de ses turpitudes. Bon, pourquoi pas. Je vous avoue que si Abel Gance avait réalisé un chef-d'œuvre, j'aurais pas eu envie de refaire une version de cette pièce. Par exemple, je ne permettrais pas de refaire Mickey et sa mère. Le film de Clouzot est trop parfait pour cela. Le film de Gance laisse imaginer une autre possibilité, une autre approche de cette œuvre, peut-être plus puriste, plus radicale, plus littérale, et qui donne à voir le fait que, au fond, le cinéma, il est dans le texte. C'est pas la peine d'en rajouter. Il suffit de s'appuyer sur le texte pour voir naître des virtualités, à mon avis, merveilleuses. Enfin, des ébauches de fiction, des propositions de fiction permanentes. Ça n'arrête pas de rebondir. Ces personnages de Buridan, ils passent par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Son stratagème de l'épin, que ça ne marche pas, bah, il va essayer la tablette. La tablette, ça ne marche pas, bah, il va essayer autre chose. Enfin, c'est une relance de la fiction en permanence, un désir de fiction qui ne cesse pas de se relancer en permanence et de produire de nouvelles histoires. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter, c'est déjà assez riche en soi-même, le texte est tellement fort, et pour faire le découpage, il n'y a pas besoin de faire de l'aération, il suffit de suivre le texte, et tous ces effets dont vous parlez, ils sont dans le texte, mais je n'ai eu qu'à tirer le fil.
Vous faites un film, et vous allez chercher les prémices du cinéma existantes au théâtre, on peut dire ça?
C'est ça, exactement, oui. C'est une sorte de préhistoire du cinéma cachée dans les ruines du théâtre. Je précise quand même qu'il y a eu également... d'autres versions de la Tour de Nesle. Hein. Celle d'Abel Gance n'est pas la seule. Par exemple, il y a une très bonne version des années 30, réalisée par un cinéaste appelé Gaston Goudès, qui est beaucoup plus fidèle à la pièce. Il y a une version muette, qui sort d'ailleurs en bonus du DVD Tamada, qui est assez amusante, puisque tout le potoro, c'est-à-dire la révélation que je ne ferai pas aujourd'hui du terrible secret qui unit Marguerite de Bourgogne et Buridan, est fait dès le début du film. Donc ça, c'était quand même un peu... c'était pas une manière de ménager le suspense très habile. Mais il y a aussi des versions télé. Il y a même une version un peu coquine qui a été réalisée en Allemagne dans les années 60 avec Jean Piat dans le rôle de Buridan. Mais ce qu'on mettait en avant surtout et ce qu'on aimait dans la Tour de Nesle depuis le 19e siècle, puisque cette pièce a été un immense succès pendant quasiment un siècle, hein, c'est vraiment le tube absolu du répertoire français, romantique et populaire. Ce qu'on aimait, c'était le côté érotique, les secrets d'alcôve, des puissants, les histoires de sexe, des grandes de ce monde, etc. Bon, j'ai un peu déplacé le centre de gravité, d'abord parce que j'ai renvoyé au hors-champ toute cette dimension d'orgie, de parties fines, qui, dans le film de Gance, par exemple, était plus présente. Et puis peut-être parce que j'ai, disons, apporté un côté un peu queer qui n'était peut-être pas prévu par Dumas.
Je pense, oui. Effectivement.
Dumas quand il mettait des pages, des jeunes pages en collant, c'était pour mettre sa petite copine qui joue le rôle en travesti. Moi, j'ai pas tout à fait suivi cet exemple. J'ai déplacé ça vers quelque chose que je crois plus contemporain, en tout cas que je peux me permettre aujourd'hui.
Et d'ailleurs, vous travestissez à un moment en bohémienne, vous jouez dans le film, vous faites le choix de jouer Buridan. C'était une évidence pour vous, c'était vous qui alliez faire ce rôle dès le départ?
Ah oui, mais parce que c'était aussi lié à l'envie de jouer ce rôle-là, oui. C'est un formidable rôle. C'est un rôle pas facile à jouer en plus, hein, parce que il est plein de contradictions. On comprend pas trop ce qui le meut. Il y a des scènes comme ça. Je pense notamment à la scène où il revoit Gauthier Donnet dans la taverne juste avant de l'envoyer à la mort à la tour de Nesle. Il y a tout un moment comme ça où on ne sait pas trop ce qu'il magouille, ce qu'il fomente. C'est un personnage à la fois shakespearien et en même temps fait de briques et de broc. Parce qu'il n'y a pas forcément la cohérence psychologique qu'il y a chez Shakespeare. Il y a aussi le côté un peu, disons... je pense que Dumas était en même temps quelqu'un qui tirait à la ligne, donc qui écrivait un peu comme ça, sous le feu de l'inspiration, sans trop se soucier de continuité. Et donc ensuite, en tant qu'acteur, il faut recoller les morceaux de tout ça. Et ce n'est pas toujours facile. Mais j'aime bien ce côté puzzle. La pièce est construite comme un puzzle. Les personnages ne cessent de se demander ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer, ce qui s'est passé. Il y a ce personnage des manants et des courtisans que j'ai fait jouer par les mêmes comédiens qui forment une sorte de cœur antique comme ça, un peu perplexe, qui ne cesse de commenter justement les failles, les lacunes du récit. Et le personnage de Buridan fonctionne aussi comme ça. C'est à la fois une figure de l'écrivain, du metteur en scène, du psychanalyste. Il y a plein de choses dans ce personnage et j'ai eu à la fois beaucoup de mal et beaucoup de plaisir à le jouer.
Mais parce qu'il est parfois pas très cohérent. Enfin, on vous le rappeliez, hein, il essaye des coups d'éclat. À un moment, il part sur quelque chose, il va faire autre chose. Je veux pas dévoiler l'intrigue du. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y en a certains qui ne connaissent pas et qui écoutent l'émission, mais c'est vrai que c'est un personnage qui est pas évident à suivre.
Oui, je crois que parfois il sait même pas ce qu'il veut lui-même. Parce que par exemple, dès le début, il est là à dire il y a un secret entre Marguerite de Bourgogne et moi. Bon, d'accord. Et puis il va quand même à la tour de Nesle pour. Alors que c'est pas très prudent. Hein, s'il a une stratégie, il ferait mieux d'aller se coucher et de préparer sa vengeance. Puis ensuite, à la tour de Nesle, il va découvrir autre chose. Encore une fois, on va pas raconter l'histoire. Mais il est en permanence J'ai essayé de le jouer comme quelqu'un qui cherche à redonner un sens à sa vie un peu ratée. C'est finalement une figure très romantique, hein. C'est la figure de l'homme de peu, de l'homme de rien, comme dirait l'autre, qui rêve en regardant le spectacle des puissants à pouvoir rentrer dans la cour des grands. C'est un personnage éminemment romantique, mais qui ne va pas arriver à ses fins. Il y a chez lui un peu un côté Monte Cristo, il y a chez lui un côté Vautrin, il y a chez lui un côté Ruy Blas, mais il est fou dans ses stratégies et c'est ça aussi que je trouve intéressant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut contrôler les autres, je l'ai dit, c'est un peu une figure du metteur en scène, il veut créer des crises, créer du drame, créer des affrontements, il y arrive d'ailleurs, et en même temps il va finir par être débordé par le dispositif qu'il a mis en place. Et j'aime cette sorte de mise en échec de la stratégie. C'est un personnage en même temps très masculin, très dominateur, et que j'ai voulu aussi montrer se travestissant, attaché, bâillonné, humilié, renaissant pour mieux s'effondrer, et finalement complètement écrasé par les stratégies qu'il a lui-même mises en place. Ça nous renvoie à Clouseau un peu tout ça d'ailleurs.
Et très amoureux, ce que j'allais dire, un peu comme Clouseau, voilà.
Très amoureux et en même temps, dans un mélange d'amour et de haine vis-à-vis de cette femme. Je suis pas sûr qu'il soit tout à fait conscient qu'il est toujours amoureux d'elle, et pourtant je l'ai joué comme ça. J'espère que ça se sent. Oui, je l'ai joué comme sourdement toujours amoureux d'elle.
Ah, si tu avais vu ma belle, comment pour toi me suis battu à deux pas de la tour de Nesle. Bataille à corps perdu, à corps gagné, si par hasard mon bras. bras on fut sorti vainqueur. À corps perdu puisque ce soir, tout doucement là je me meurs.
Vous écoutez Noël Herpe, réalisateur de La Tour de Nesle, film disponible chez Tamasa au micro de Culture Prohibée.
Aurais-je cru en leur fredaine.
Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé aussi. Alors, c'est un tout petit budget, hein, avec, on parlera après des décors et tout ça, mais il y a une ambition formelle. Enfin, la mise en scène est assez extraordinaire. Vous convoquez toutes les... En plus, vraiment au service du récit, vous convoquez beaucoup de figures de la mise en scène. Alors, des fermetures en iris, beaucoup de gros plans. Vous utilisez aussi l'écran noir. Vous utilisez aussi très bien les ombres. Parfois, le flou, la caméra peut être très mobile. Je pense aussi à cette scène où, à un moment, Buridan est attaché. Il raconte l'histoire de Marguerite. Et l'image se floute comme ça. Est-ce que tout cela... Enfin, tout cela, c'est... Il y a peut-être des aléas de production, mais est-ce que tout cela, c'est vraiment, c'était écrit storyboardé, c'était, ou alors vous faites ça au moment où vous tournez, comment vous travaillez, c'est quoi la méthode Noël Herpe? Je sais que c'est un des titres des bonus, mais c'est quoi votre méthode? Voilà.
Ma méthode, c'est en effet de faire un découpage extrêmement précis. Où je prévois. J'avais déjà fait un film qui s'appelait Fantasmes et Fantômes, qui était déjà un film de théâtre filmé. Moi, j'aime pas beaucoup cette expression d'ailleurs, mais j'avais déjà expérimenté cette méthode qui consiste à prévoir les plans de manière quand même assez précise. D'autant plus que je tourne dans un lieu qui est pas vraiment un studio de cinéma, qui est plutôt un atelier d'artiste qui se trouve être mon appartement. Donc c'est un luxe, hein, de pouvoir travailler sur les lieux où on habite, donc j'en connais le moindre recoin, et là j'ai pu à l'avance savoir que l'escalier de l'immeuble allait servir d'arrivée pour le roi et pour sa cour, que la baie vitrée qui donne sur la rue allait permettre d'installer une découverte avec un trompe-l'œil figurant la tour de Nesle ou le Louvre, que la trappe qui donne sur le sous-sol, c'était par là que les frères Donnet, une fois qu'ils se sont fait oxyre, vont remonter tout sanglant. Donc ça j'ai comme ça une sorte de petite boîte à musique à ma disposition et qui me permet de faire des assemblages, d'organiser mon propre espace, mon espace de vie en espace de fiction. Alors ensuite, c'est absolument indispensable parce que comme ce sont des tournages fauchés, qu'on a tourné ce film en un mois, qu'il y a des plans séquences, j'ai pas droit à l'erreur. C'est-à-dire, je peux pas me permettre, sur le moment du tournage, de pas savoir où je vais mettre la caméra et comment je vais résoudre tel ou tel problème. Il faut que tout ça soit décidé largement à l'avance. Ensuite, storyboard, peut-être pas, mais j'ai fait avec mon assistant ce qu'on appelait des storyboards filmés, qui nous permettaient quand même d'éprouver dans l'espace ce que j'avais imaginé au moment du découpage et de vérifier que ça fonctionnait, y compris avec les comédiens. Donc il y a ça, il y a les storyboards filmés, puis ensuite il y a des répétitions qui sont quand même assez nombreuses. Ce qui fait que quand on arrive au tournage, quand même, la préparation a déjà été importante. Mais pour quand même pas donner l'impression que tout ça est uniquement prémédité, car un découpage en même temps, il est fait à la fois pour se rassurer, pour donner un cadre, mais aussi pour être bousculé. Je crois que tous les metteurs en scène le savent. Il y a des moments qui n'étaient pas du tout prévus. Par exemple, il y a des faux raccords des erreurs de raccords qu'on a. Il y a un moment où Marguerite de Bourgogne elle est à la taverne, il y a Gauthier qui arrive et précipitamment elle jette son masque doré sous la table. Je ne sais pas si vous vous en souvenez.
Tout ça, c'est parce qu'en
fait, la script avait oublié d'enlever le masque, ou je ne sais pas, ou elle avait oublié de le laisser sur la table au plan précédent qu'on avait tourné ensuite, ou l'inverse. Donc, du coup, pour que ce soit raccord, elle a improvisé ce geste. Vous voyez, c'est des choses très amusantes parce que c'est assez merveilleux aussi quand on arrive à se permettre une fantaisie à partir de ce qu'on a prévu. C'est aussi ça qui est passionnant dans un tournage. Et tout le moment que vous décrivez, le moment de flou dans la prison, quand je suis attaché, que je raconte le passé et que tout d'un coup, le premier plan devient flou, c'est un aléa de tournage que
pour lequel je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui nous a obligés à inventer une solution qui nous permet également de rebondir au tout dernier plan du film, sur un plan qui...
Voilà, c'est ce que j'allais dire, ça évoque, en plus ça fait lien avec le dernier plan. Ouais.
Mmh. Voilà, mmh. Et ça c'est à la fois des aléas de tournage et des astuces de montage.
Mmh. Non, mais c'est une mise en scène très très travaillée, moi j'aime beaucoup. Et est-ce que vous partagez d'ailleurs la doxa hitchcockienne qui... Hitchcock se moquait lui bien beaucoup que l'on voit les coutures dans ses films. Et moi j'adore ça dans votre film, on voit les coutures dans le sens où, vous l'avez dit, il y a des décors peints, tout ça, ce que j'aime beaucoup, d'ailleurs ce qui se pratiquait beaucoup d'ailleurs dans le cinéma japonais, qui, moi je trouve, j'aimerais bien qu'on y revienne plus parfois. Et à un moment que j'aime beaucoup dans le film, vous surgissez d'un décor. C'est vraiment... D'ailleurs, dès le début, vous quasiment vous sortez d'un placard, enfin vous utilisez, vous en jouez, en plus il y a une sorte comme ça de... Alors, personnage a du panache et il y a aussi une sorte d'humour, enfin voilà, je trouve ça je trouve ça très efficace.
Oui. Je prétends pas que cette histoire soit crédible, hein. J'aime montrer qu'on joue un rôle, que je joue des rôles, car Buridan joue plein de rôles différents, il se travestit, il se déguise, etc. Et j'aime cette idée qu'on ait un peu des enfants qui joueraient, qui seraient des adultes et qui joueraient, qui seraient des comédiens, si vous voulez. C'est aussi pour ça que je prends des gens. Alors il y a certains acteurs professionnels dans mon film, mais c'est aussi beaucoup des amis, des gens. Dans le film précédent, j'avais fait tourner ma propre mère. Donc il y a aussi ce côté amateur au sens noble du terme, et cette volonté de montrer toujours, on en parlait à propos de Nick et sa mère, un écart entre la fiction théâtrale et le cinéma. C'est surtout pas réaliste, et il faut pas qu'on y croie tout à fait, il faut qu'on ait envie d'y croire, et que peut-être, petit à petit, on se fasse cueillir par les émotions de la fiction. C'est pour ça, par exemple, que la première scène, j'ai choisi la plus mauvaise prise, parce que c'était très mal joué. On avait fait 16 prises, mais aucune ne me satisfaisait. Et j'ai pris la première, parce que je me suis dit, autant qu'on commence vraiment super ringard, avec un côté théâtre de patronage. Et c'est vrai que les spectateurs me disent souvent, oh là là, au début, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un côté complètement foireux. Et petit à petit, c'est le cas pour les gens qui aiment le film, qui sont quand même assez nombreux, ils sont cueillis par les émotions de l'histoire que raconte Dumas et par les émotions qu'apportent les comédiens, la fraîcheur et en même temps la spontanéité des comédiens. Mais je voulais surtout pas faire quelque chose, parce que évidemment le risque quand vous faites un film comme ça, c'est l'académisme, c'est le fétichisme, c'est de vouloir faire quelque chose de parfait, où il y a absolument rien qui dépasse, rien qui déborde, et ça m'intéressait pas du tout. Et je suis content que vous citiez Hitchcock, parce que il y a un film de lui que j'aime beaucoup, évidemment, c'est La Corde, et qui est un film de théâtre. Et dans La Corde, parce qu'il y a un moment que j'aime beaucoup, c'est un moment où James Stewart imagine l'arrivée du personnage du mort, hein, du personnage qui se fait assassiner, et la caméra se balade toute seule et s'approche très près du décor. Et là, on voit que c'est de la toile peinte, on voit vraiment que le décorateur a travaillé une sorte de frise au bas du mur, etc. Et ça, je le fais en tant que cinéaste. Je ne me compare pas à Hitchcock, je sais, mais je m'amuse beaucoup à montrer le décor, à montrer que c'est du décor, y compris que c'est mon décor, qu'on est chez moi, qu'il y a des interrupteurs, qu'il y a des prises électriques. Alors je ne le montre pas de manière trop ostentatoire, mais ça ne me dérange pas que ça se voit. La tour d'Onel, promise à une incarnation réaliste, c'est la tour d'Onel filmée dans l'appartement de Noël Herpe.
Tout à fait. Comme vous le dites, c'est très efficace. Après, on se laisse emporter complètement par l'émotion, par la scansion aussi, qui est très importante, le rythme qui est apporté aussi par les comédiens. Je vais terminer, ça va être ma dernière question, mais justement, quelle place vous accordez dans le jeu aux comédiens sur cet aspect de scansion, de rythme, parce que le film doit durer, je crois, 1h50, quelque chose comme ça, mais ça passe très vite, il y a une sorte de rythme trépidant qui est apporté beaucoup par le jeu quand même.
Oui, je suis content que vous parliez de ça, parce que le côté musical était très important pour moi. C'est un opéra aussi, cette pièce. Hein. D'ailleurs, le théâtre romantique a donné lieu à pas mal d'adaptations lyriques. Je voulais, par exemple, qu'il y ait une ouverture au début, qui se fait non pas dans le noir, mais dans le blanc, c'est-à-dire sans image. Et j'insistais beaucoup avec mes comédiens sur les questions à la fois de tessiture, par exemple pour Isabelle Carpi qui avait tendance à monter un peu dans les aigus, et je lui disais garde plutôt un côté basse continue. J'ai demandé au comédien Thierry Paré qui joue le rôle d'Orsini lors de son fameux monologue au début du deuxième acte, quelle belle nuit pour une orgie à la tour, le ciel est noir, la pluie tombe, le fleuve grossit comme pour aller revendre des cadavres. Bon, qui a un texte magnifique et qui est vraiment un monologue d'opéra. Hein. Il le faisait d'une manière que je trouvais un peu trop, alors pour le coup un peu trop sombre, un peu trop tragique, et je lui disais c'est le plus rigoletto. Et tout de suite, il a compris et il a trouvé le rythme qu'il fallait. Oui. Donc, c'est des choses comme ça qui sont très importantes. Je suis très sensible à ça chez le comédien. Oui, c'est la musicalité de la voix et le fait d'être sensible à la musique du texte, car tous les comédiens n'en sont pas capables. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Là aussi, je dirais que c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Il y a une musique du texte, il faut savoir l'écouter.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee, avec, à la technique, the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnin. Salut les gens, à la prochaine.